selon Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Alors on va s'éloigner un peu de la France, mais aussi des pays que l'on a l'habitude d'explorer. Nous allons aller en Finlande grâce à vous. Quel est le point de vue de la Finlande sur la Russie, l'Europe, bref, le monde?
Oui, j'avais envie de dire quelques mots de la Finlande ce matin. D'abord parce que j'en reviens, j'ai été invité par l'Institut français à faire une conférence et j'ai pu parler devant 130 à 140 Finlandais à Helsinki, en français. C'est ça qui était demandé, donc c'était déjà sympathique de voir qu'est cette population. Et deuxièmement, j'ai gardé de l'époque où j'étais à la tête de la diplomatie le souvenir précis que c'est très intéressant de parler avec des pays petits ou moyens qui sont à côté de grands et gros pays. Ils ont souvent un regard plus aigu, surtout des pays qui n'ont pas la prétention d'influencer le monde mais qui gèrent leurs intérêts immédiats. Par exemple, les Omanais sont très intéressants à propos de l'Iran et de l'Arabie, les Mongols sont très intéressants à propos de la Russie et de la Chine, et la Finlande est très intéressante à propos de la Russie. Et l'autre élément, c'est qu'on débat beaucoup en France de l'Europe, mais de façon abstraite et un peu générale. L'Europe, on est pour, contre. Et les gens ne s'intéressent pas tellement aux Européens, en réalité, aux Européens, en vrai. Alors on sait qui dirige l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, ça s'arrête à peu près là, et personne ne serait capable de dire les noms des autres, en général, vous voyez. Alors qu'il y a mille choses à apprendre de la diversité européenne. Dans le cas de la Finlande, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un pays donc qui est à côté de ce qu'ils appellent dans le langage courant l'ogre russe. Bon, qu'ils ont résisté vaillamment pendant la guerre, ils ont été absolument étonnants au début de la guerre contre l'armée soviétique. Ils en gardent une véritable fierté, mais une véritable obsession en même temps. Ils ont 1300 km de frontière avec la Russie. Mais c'est pas comme les pays de l'ancien bloc de l'Est qui ne sont jamais passés sous la coupe politique de l'Union soviétique. Ils ont été finlandisés, comme on disait, c'était à la fois positif et négatif, ça voulait dire qu'ils étaient obligés de n'avoir aucune politique étrangère. Enfin, ils approuvaient l'URSS, mais selon quoi? Enfin, grâce à ça, ils étaient totalement libres sur le plan interne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Brzezinski, l'ancien conseiller de Carter, considère que pour l'Ukraine, il vaudrait mieux être finlandisé qu'en proie à la guerre civile. Ça voudrait dire un pays neutre, en fait, sur le plan extérieur et sur le plan de la stratégie. Donc, ils ont développé à la fois une obsession, ils ont gardé la conscription, donc, en quelque sorte, ils ne comprennent pas que les grands pays d'Europe l'aient abandonné. Et ils font des manœuvres, ils ont même fait il y a quelques jours des manœuvres pour contrer une guérilla urbaine dans Helsinki, vous voyez ce genre de choses. Et en même temps, ils parlent avec les Russes, tout le temps. Quand j'étais il y a quelques jours, le président finlandais était à Moscou pour discuter avec Poutine. Alors que si on parle avec les pays baltes ou avec la Pologne, c'est beaucoup plus dur, il y a une sorte d'antagonisme anti-russe de pays qui ont échappé à la coupe de l'URSS quand ils étaient démocratie populaire, et ils n'ont pas le même pragmatisme que les Finlandais. Donc il y a un vrai pragmatisme. Évidemment, il demande à tout visiteur extérieur qui a des idées sur ces sujets, est-ce que vous croyez que Poutine peut nous envahir? La réponse en général est plutôt non. Mais
votre réponse était plutôt non?
Oui, c'est ça. Mais en même temps, je dis, je comprends qu'un pays à côté, avec ce passé, avec ce pays, veuille prendre des précautions et être très défendu. Donc leur grand problème, c'est l'OTAN. Ils voudraient y être sans oser le dire, mais ils n'iront pas sans les Suédois, qui eux sont plutôt contre, mais en même temps, les Suédois savent que leur armée vaut plus un clou. Donc il y a toute une espèce de débat de sécurité, mais qui ne conduit pas donc à l'idée idiote de boycotter la Russie, ou de ne pas parler avec les Russes, ou de passer son temps à dénoncer Poutine. C'est pas leur traduction de ce que je viens de rappeler. Leur traduction est très pragmatique. D'autant que c'est un pays qui regarde ébahi nos histoires de réfugiés et de migrants, parce qu'il y en a très très peu. Ils mettent en avance leur homogénéité. Il y a, on m'a dit, 0,2% d'immigrants en Finlande, c'est-à-dire rien en fait. Et ceux qui arrivent, c'est pas du tout les réfugiés qui arrivent dans l'affaire syrienne là, dans nos pays, c'est des Afghans en général qui sont passés par la Russie et que les Russes laissent passer ou pas pour avoir un tout petit peu de pression sur les Finlandais. Donc quand le président finlandais va à Moscou, c'est pour dire essayer de contrôler la frontière par rapport aux réfugiés afghans. On en veut bien un tout petit peu, à condition qu'ils veuillent s'intégrer. Mais les types restent pas beaucoup en Finlande, parce que c'est quand même une langue rare, compliquée à apprendre, etc., etc. Donc c'est un regard sur la question des réfugiés qui est complètement distinct sur les questions de militaires, j'en ai parlé. C'est un pays très égalitaire, traditionnellement, qui met en avant son côté luthérien, qui se considère comme parfaitement honnête. Ils n'ont même pas d'autorité pour lutter contre la corruption, parce que ce serait une sorte d'auto-insulte par rapport à un pays fier de ça. Et enfin, c'est un pays qui est mis en tête sans arrêt dans les classements internationaux sur l'éducation. Vous savez, les fameux classements PISA. Or, c'est un pays où les enfants sont scolarisés très tard. Or, c'est exactement l'inverse de l'idée progressiste française depuis des décennies, comme quoi il faut scolariser les enfants le plus tôt possible, en fait. On m'a dit vers 7 ans. Vers 7 ans. Et après, il y a un principe extrêmement simple, c'est qu'il n'est absolument pas question qu'il y ait le moindre décrocheur, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enfant qui décroche. Et les classes, la relation avec les élèves, la pédagogie est organisée pour que l'ensemble de ces populations, donc future population énorme, classe moyenne, homogène, arrive au même niveau. Donc sur plusieurs points, alors que c'est un pays de l'Union européenne, qui est dans les conseils européens, et auquel on ne pense pas plus qu'on pense à ce que pensent les Slovènes ou les Irlandais, etc. Vous voyez. Et je crois qu'il faut toujours souligner cette formidable diversité européenne. Et si on arrive à en faire un atout, si on arrive à la garder, sans vouloir l'éradiquer, l'unifier, l'homogénéiser, c'est un formidable atout pour l'Europe, le jour où on arrivera à se remettre d'accord sur les 2 ou 3 points stratégiques qui nous assaillent en Europe constamment, dont on parle d'habitude, quand on ne fait pas ce petit détour périphérique.
Donc vous incitez nos auditeurs à aller en Finlande, Hubert Védrine.
Par exemple, en plus il y a la Laponie qui est très belle, et enfin tous les pays européens sont intéressants, hein, mais ceux auxquels on ne pense pas spontanément.
Merci beaucoup Hubert Védrine, 7h22 sur France Culture.